Radio Prague, les informations.
La politique étrangère et la constitution européenne ont été au menu d'une rencontre du président Václav Klaus avec les ministres du nouveau gouvernement. Mercredi, les diplomates d'une dizaine de pays européens discuteront à Prague de l'abolition de visas américains pour leurs citoyens. Une exposition consacrée à l'anniversaire de la charte 77 a été ouverte dans la capitale. L'eurodéputé Jan Zahradil de l'ODS et l'ancien ministre de la Défense Jiří Šedivý seront les négociateurs tchèques dans le processus de relance de la Constitution européenne. Le traité constitutionnel ainsi que la politique étrangère de la République tchèque ont été au cœur d'un débat ce mardi entre le président Václav Klaus, le premier ministre Mirek Topolánek, le vice-premier ministre Alexandr Vondra et le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg. Des divergences de vues n'ont pas été constatées. Quant au traité constitutionnel, le président Klaus prône pour la rédaction d'un nouveau texte qui, je cite, « empêcherait l'unification progressive de l'Europe ». Rencontre ce mardi entre le président du Parti social-démocrate tchèque Jiří Paroubek et l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Ils se sont entretenus de la situation internationale et des relations tchéco-allemandes. Le premier ministre slovaque, le socialiste Robert Fico, a également assisté à cet entretien. Mercredi, les diplomates américains et tchèques ainsi que les représentants de Hongrie, de Pologne, de Slovaquie, des Pays-Baltes et de Grèce discuteront à Prague de l'éventuelle abolition de visas américains pour leurs citoyens. Le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Paul Rosenzweig, devrait leur présenter le plan américain des réformes du système de visa qui est actuellement en discussion. Présente dans plus de 70 pays, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières ouvre le 24 janvier sa nouvelle section en République tchèque. Jusqu'à présent, Médecins sans frontières comptait 19 sections implantées dans autant de pays. Des documents et objets liés à la charte 77 sont exposés à partir de ce mardi et jusqu'au 25 mars prochain au Musée national de Prague. On peut y voir des journaux et livres édités en samizdat ou encore le texte original de la charte 77 saisi par la police auprès de Václav Havel. Une conférence internationale consacrée au 30e anniversaire de la publication de la charte 77 sera organisée fin mars à Prague en présence de l'ex-président tchèque Dada Michnik, de l'historien Vélem Prečan et d'autres invités. Encore. Sorti le 11 janvier sur 40 copies, le nouveau film du réalisateur Jiří Mence, « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre », est en tête du box-office tchèque. Il a attiré à ce jour presque 80 000 spectateurs. En tennis, deux joueuses tchèques ont disputé un match en quart de finale de l'Open d'Australie. Nicole Vaidisheva a battu Lucie Šafářová en 2-7, 6-1, 6-4. Nicole Vaidisheva rencontrera en demi-finale l'américaine Serena Williams. Côté météo, autour de 10 cm de neige sont tombés, notamment au sud et à l'est du pays. La neige et le verglas ont perturbé la circulation dans certaines régions. Mercredi, il fera de moins 4 à 0 degrés. Il neigera abondamment sur l'ensemble du territoire. Nous fêterons les Milena en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
L'intention des États-Unis d'installer un système antimissile en Europe centrale suscite la polémique à tous les niveaux de la société tchèque. Présentation à l'Institut Goethe de Prague du nouvel manuel d'histoire franco-allemand. Parution de la traduction tchèque d'un recueil de poésie de Roger Gilbert Lecomte tire de l'oubli un mouvement philosophique, littéraire et artistique de la première moitié du XXe siècle. Et pour finir le sport, le footballeur tchèque Milan Baroš signe avec le club de Lyon. Telles sont les grandes lignes de ce tour d'actualité tchèque présenté par l'ensemble de la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. L'intention d'intégrer la Tchéquie dans le système de défense antimissile américain est débattue depuis 2002. Vendredi dernier, les États-Unis ont présenté à la République tchèque la demande officielle d'installer sur son territoire une station radar faisant partie de ce système. La perspective d'un éventuel placement du radar prévu pour 2011 et les réactions que la demande a suscitées avec Jarka Gisiblova.
La demande américaine d'entamer les négociations sur l'installation d'une station radar est venue aussitôt après que le gouvernement Topolánek a obtenu vendredi dernier la confiance des députés. Certains critiquent le fait que les États-Unis aient attendu que la Tchéquie ait un nouveau gouvernement. Selon Topolánek, la demande serait le résultat de la visite à Prague de Dan Frit, secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Europe. Il n'empêche que Mirek Topolánek se montre favorable au projet. Il a qualifié de geste de confiance de la part des États-Unis qui renforce la sécurité de la Tchéquie et celle d'Europe et qui est l'expression de notre co-responsabilité vis-à-vis de la sécurité globale à laquelle nous nous sommes engagés par notre entrée dans l'OTAN et l'Union européenne. Il a mentionné aussi l'impact économique positif que le placement du radar aurait pour l'emploi dans la région concernée. Par contre, la tenue d'un référendum sur cette question n'est pas nécessaire. D'après Topolánek, il appartient au Parlement d'en décider. Justement, l'opposition s'annonce d'ores et déjà tenace à la chambre basse du Parlement. Alors que le chef des sociaux-démocrates Jiří Paroubek ne serait pas lui opposé à l'idée du radar, jusqu'à 90% des sociaux-démocrates le sont et exigent la tenue d'une consultation populaire. Résolument contre sont les communistes qui ont déjà soumis le projet de loi sur le référendum. Le placement du radar présenterait, selon eux, une intervention dans la souveraineté de la Tchéquie. Le territoire du placement du radar serait subordonné à la juridiction des États-Unis. Le projet d'installer une station radar américaine sur les territoires tchèques se heurte aussi à une forte opposition de généraux russes. Lundi, le commandant des armées spatiales, le général Vladimir Popov, l'a qualifié de nette menace envers la Russie et n'a pas exclu la prise de mesures adéquates d'ordre politique et militaire. Le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, refuse la rhétorique russe.
Je to obvyklé ruské stanovisko, že si při každé příležitosti.
Il s'agit là d'une position habituelle de la Russie de poser des jalons, mais la partie russe était très bien informée de cette question et elle sait qu'il ne s'agit là point de questions russes.
La Pologne est le deuxième pays cité en rapport avec l'intention d'édifier une base antimissile américaine en Europe. La Tchéquie est toutefois la première sollicitée officiellement. La demande divise la société. Une pétition qui circule depuis l'année écoulée a réuni plus de 40 000 signatures.
Le manuel d'histoire franco-allemand, un manuel identique publié dans les deux langues et qui donne une vue d'ensemble sur l'histoire de 1945 à nos jours, a été présenté lundi à Prague. Il s'agissait, et les interlocuteurs ont bien tenu à le souligner, de sa première présentation en dehors de la France, dans un autre pays de l'Union européenne. Alena Gebertova y a assisté.
Ce projet, il est très ambitieux, parce que son objectif est de faire en sorte que les élèves français et allemands apprennent, à partir d'un même ouvrage, l'histoire de leur pays, l'histoire de l'Europe et du monde.
C'est par ces paroles que l'ambassadeur de France en République tchèque, M. Charles Fries, a introduit devant la salle pleine de l'Institut Goethe de Prague la présentation de ce manuel pas comme les autres. À son origine, le souhait de quelques 500 lycéens français et allemands, réunis le 22 janvier 2003 à Berlin, de réduire les préjugés et de dépasser une histoire marquée par plusieurs guerres meurtrières entre l'Allemagne et la France. Le professeur de philosophie Jan Sokol apprécie que le manuel ne présente pas un regard unifié sur l'histoire.
Il est important que le manuel respecte les divergences de points de vue. L'intérêt est que les Français sachent ce que les Allemands pensent de certains chapitres de leur histoire et vice-versa. Je me réjouis du succès de l'ouvrage qui reflète un besoin réel que ressentent les Européens. À mon sens, les possibilités de l'intégration européenne centraliste ont leurs limites. Ce qui manque, c'est une intégration horizontale, une intégration entre voisins. Je suis heureux qu'il y ait beaucoup de gens qui réalisent que ce besoin est peut-être plus important pour l'avenir de l'Europe que les grandes procédures qui se déroulent à Bruxelles ou à Strasbourg.
Guillaume Le Cantrec est l'auteur et co-directeur du projet.
Pour moi, personnellement, c'était quelque chose d'extraordinaire et que j'ai vraiment, ça m'a fait prendre du recul par rapport à la façon dont nous enseignons en France, Ça m'a fait comprendre, comme je le disais tout à l'heure, que l'identité nationale, elle se réfugie pas forcément là où on l'attend, mais qu'elle est toujours là. Et c'est une bonne chose. Je voudrais dire que écrire cette histoire européenne, ça n'exclut absolument pas les histoires nationales. On peut parfaitement concilier, dans un manuel européen, l'histoire nationale et l'histoire européenne.
Si le premier manuel d'histoire franco-allemand, offrant des regards croisés, français et allemand, est consacré à la période récente, celle des 60 dernières années, un deuxième volet, actuellement en préparation, traitera de la période 1848 à 1945.
L'apparition de la traduction tchèque des poésies de Roger Gilbert Lecomte a tiré de l'oubli l'existence, dans les années 20 du siècle dernier, d'un mouvement qui n'avait pas mérité d'être oublié. Ce lundi, une rencontre littéraire au café de l'Institut français de Prague a été consacrée à la lecture des extraits du recueil intitulé « La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent » et aussi au contexte historique, littéraire et spirituel dans lequel cette poésie de Roger Gilbert Lecomte avait été créée. On a évoqué le mouvement « Le Grand Jeu » dont Gilbert Lecomte était une des personnalités les plus marquantes. Le mouvement naît en 1922 lors d'une rencontre au lycée de Reims de quatre jeunes gens qui se regroupent autour du concept du Grand Jeu et qui, 6 ans plus tard à Paris, créeront une revue du même nom. 3 de ces 4 jeunes laisseront leur empreinte dans la lettre française du XXe siècle. Ils s'appellent René Daumal, Roger Gilbert Lecomte et Roger Vaillant, et ils attireront dans leur orbite d'autres grands noms des lettres et des arts, dont Man Ray et Robert Desnos, ainsi que 2 artistes tchèques, le peintre Josef Šíma et le poète Richard Wagner. Le poète et réalisateur de cinéma Bernard Schmitt explique les objectifs et les ambitions de ce mouvement.
Alors c'est un mouvement qui ne se voulait pas être un mouvement littéraire. Donc d'emblée, l'aventure du Grand Jeu n'est pas une aventure littéraire ou artistique. Et ceci, c'est bien clairement indiqué par les jeunes gens du Grand Jeu qui veulent que leur aventure soit avant tout une aventure de l'expérience. Donc dès le départ, le Grand Jeu essaie d'éviter un malentendu. Ce n'est pas une aventure littéraire, ce n'est pas une aventure artistique. C'est une expérience d'individus à la recherche d'une connaissance, d'une vérité métaphysique. Les jeunes gens mettent au point un principe qu'ils appellent la métaphysique expérimentale et dont le but est, à travers des expériences d'écriture, de création, mais également d'expérimentation de drogue, d'expériences physiques, d'essayer d'approcher une connaissance, et une connaissance totale, absolue, de l'être. Et le but de la revue est d'exprimer cette collectivité, d'exprimer les recherches faites par cette collectivité.
Quelle était la part des artistes tchèques dans ce mouvement ?
Alors, la part des artistes tchèques, elle est surtout représentée par Josef Šíma, qui a été le peintre du Grand Jeu. Il y a eu d'autres artistes ou d'autres personnes qui se sont exprimées par l'art dans le Grand Jeu. Je pense à Maurice Henry ou à Arthur Arfaud, par exemple. Mais Šíma reste bien entendu le grand créateur, le grand peintre du Grand Jeu. Mais avant Šíma, il y a une personne qui est un peu oubliée dans l'histoire du Grand Jeu, qui est Wagner. C'est-à-dire que Wagner, qui était donc à Paris, qui était correspondant de Lidovel Novini à Paris, rencontre très vite, très 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 tôt, les jeunes du Grand Jeu. Il rencontre Pierre Minet, qui est venu à Paris, et c'est par l'intermédiaire de Pierre Minet qu'il va rencontrer Roger Vaillant, et qu'il va rencontrer René Daumal, puis Gilbert Lecomte. Il va être très 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 proche d'eux pendant quelques années. Et il ne va pas participer à la revue. Alors les raisons sont assez complexes. Je pense que Wagner était quelqu'un qui, à la fois, était attiré par l'activité collective, et en même temps avait une sorte de solitude, qui fait que quand la revue était sur le point de se faire, il n'a pas donné de texte alors qu'il aurait dû donner de texte et il n'a pas participé à cette aventure. Il a repris certains souvenirs dans son livre « Jeu pour de vrai » qui est paru ensuite en 1933.
Ceux qui désirent apprendre plus sur ce chapitre peu connu de la pensée, des lettres et des arts du XXe siècle sont invités à l'écoute de la rubrique « Rencontres littéraires » que Radio Prague vous proposera ce samedi. La République tchèque est confrontée à un choc démographique provoqué par le départ à la retraite des classes d'âge correspondant au baby-boom des années d'après-guerre. Les statistiques du ministre du Travail et des Affaires sociales sont claires. Jamais dans l'histoire du pays, le nombre de retraités n'a été aussi élevé que maintenant. Jarka Gisiblova pour plus de précisions.
Sur 10 millions d'habitants qui y vivent, en République tchèque, 1 420 000 sont à l'âge de retraite. L'année dernière, on a enregistré le plus grand accroissement du nombre de retraités de presque 70 000, dit Karel Sedláček du ministère du Travail et des Affaires sociales, selon lequel cette évolution continuera jusqu'à l'an 2011. L'année dernière, c'était le tour des départs à la retraite des années 1944-1945 pour les hommes et de 1946 et 1950 pour les femmes. Les Tchèques restent en plus longtemps en retraite, ce qui s'inscrit dans une évolution démographique fondamentale, la prolongation de la durée de vie. Depuis les 10 dernières années, elle a augmenté pour arriver à 72,8 ans chez les hommes et à 79,2 chez les femmes. Une conséquence qui en découle est d'ordre économique. Il reste à assurer le financement des retraites. Les retraites sont payées à partir des cotisations sociales des employés actuels. La proportion à un retraité sur deux actifs et demi. À l'avenir, elle changera au détriment des retraités. Selon l'analyse de Patria Finance, David Marek, les problèmes se posent dès maintenant et d'ici à 2014, ils seront alarmants. Le budget de l'État plongera dans un déficit énorme dont il ne sortira que si une réforme du système des retraites est lancée dans l'immédiat. L'année écoulée, on a déjà fourni un exemple. À 257 milliards de couronnes destinées aux retraites, le gouvernement a dû ajouter 10 milliards supplémentaires, sinon il n'y aurait pas eu de quoi payer à Noël les retraites.
On passe au sport avec du football. L'attaquant international tchèque d'Aston Villa, Milan Baroš, a signé un contrat de 3 ans et demi avec l'Olympique lyonnais. Milan Baroš, âgé de 25 ans, avait déjà été contacté par le club quintuple champion de France il y a un an et demi, mais n'avait pas donné suite à l'époque, préférant opter pour Aston Villa. Lors de sa première conférence de presse en tant que joueur de l'Olympique lyonnais, Milan Baroš a répondu aux questions de Caroline Bauer. Il a évoqué d'abord ses contacts avec les joueurs de sa nouvelle équipe.
Actually I've been already in the dressing room and I met all the players in the dressing room, so I all of them.
Évidemment, je les connaissais tous, je les ai vus à la télé, je connaissais les visages et les noms. Et aujourd'hui, je les ai rencontrés dans le vestiaire. Je suis footballeur professionnel depuis 6 ans environ et je n'envisage pas de problème au niveau de mon intégration.
Already in the team, so in abroad 5 years, this is my 6th season, so it won't be a problem for me.
Milan Baroš envisage avec optimisme ce nouveau chapitre de sa carrière.
En effet, j'ai traversé une période un petit peu difficile après mon départ de Liverpool. Et je vois ce nouvel engagement comme une belle opportunité de relancer ma carrière d'une certaine façon, mais aussi de m'élever au niveau de l'équipe et de faire partie d'une équipe performante.
C'était le joueur de l'Olympique lyonnais, Milan Baroš. Fin de ce tour d'actualité tchèque. Ce n'est pas tout pour aujourd'hui. Ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Suite de notre programme en français, nous prenons maintenant la direction de Náchod, à 200 km au nord de Prague, près de la frontière tchéco-polonaise. Dans une des usines de la ville de Náchod sont employées des ouvrières originaires de Corée du Nord. Des travailleurs immigrés pas comme les autres, car on soupçonne le régime dictatorial de Kim Jong-il d'exploiter ses ressortissants et de les utiliser pour faire rentrer des devises étrangères dans les caisses de l'État nord-coréen. Les couturières de Kim Jong-il en Europe centrale, c'est un reportage à suivre tout de suite sur Radio Prague.
Devant l'usine Snieżka, à l'heure du changement d'équipe, des employés, en majorité des femmes, terminent leur journée. D'autres s'apprêtent à prendre la relève. Parmi elles, de nombreuses Asiatiques, des Nord-Coréennes qui refusent de communiquer et s'éloignent dès qu'elles voient un micro ou une caméra.
En cachette, on leur a montré des photos de nos maisons. On leur a raconté comment on vivait et certains m'ont dit qu'elles voudraient bien rester ici, en Europe.
Anya est une jeune Polonaise qui travaille avec une centaine de couturières nord-coréennes dans cette usine de Nahod, une petite ville tchèque du nord-est de la Bohême.
Elles travaillent plus que les autres, mais ne touchent en réalité que moins de la moitié de leur salaire. Le reste, c'est pour leur pays, la Corée, et c'est injuste.
Et Anya ajoute que les Nord-Coréennes ont l'interdiction formelle de communiquer avec les autres employés. Le directeur de la société Snieżka, Miloslav Čermák, affirme que tout est en règle, certificat d'une société d'audit irlandaise à l'appui. Malgré les recommandations de l'ambassade de Corée du Nord, qui lui a vivement conseillé de ne pas communiquer avec la presse, il nous fait visiter son usine, d'où sortent des pièces destinées à l'industrie automobile européenne. Les Nord-Coréennes sont mes meilleures employées. Elles sont habiles et appliquées, se félicite-t-il, en montrant les machines à coudre derrière lesquelles les jeunes Asiatiques fabriquent des appuis-têtes à toute allure. Moi, je les paie. Après, je ne sais rien de ce qu'elles font de leur argent et je n'ai pas à leur dire comment le dépenser. Non content de profiter d'une main-d'œuvre docile et bon marché, Miloslav Čermák se dit persuadé qu'il participe également à la lutte pour les valeurs démocratiques. Fort de ses expériences à l'étranger, quand son pays était encore sous le joug communiste, il est sûr que les filles peuvent à leur tour raconter leur expérience à leurs proches en rentrant et que ce séjour est certainement une forme de subversion idéologique. En théorie, plus il y en aura qui voyageront et reviendront au pays, plus forte sera la pression pour changer les choses chez eux. Encore faudrait-il pourtant que ces filles aient un minimum de contact avec la population locale. À Nahod, logée dans une maison qui appartient à l'entreprise et surveillée jour et nuit par un compatriote, leurs contacts avec l'extérieur sont plus que limités.
Non.
Sans moi, ce serait difficile pour elles de survivre ici. Elles ont peur, affirme un homme officiellement désigné comme leur traducteur, après avoir refusé de nous montrer dans quelles conditions les filles sont hébergées. La seule sortie autorisée aux couturières nord-coréennes l'année dernière fut un thé dansant organisé par les responsables locaux du Parti communiste tchèque, une formation connue pour ses liens avec les dernières dictatures communistes de ce monde. C'était en mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les communistes locaux ont eu droit à une chorégraphie dans le plus pur style de Pyongyang. C'était exceptionnel, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir autant de jeunes filles parmi nous, se souvient le secrétaire de l'antenne locale du parti, Yeji Jurchek, à qui l'ambassade nord-coréenne avait demandé d'inviter les filles pour les divertir. Avec la société Snieżka à Nahod, une poignée d'autres entreprises tchèques emploient au total environ 400 citoyens nord-coréens, en grande majorité de jeunes couturières. Elles font partie de ce contingent de milliers de nord-coréens recrutés à l'étranger, entre 10 et 15 000 selon les estimations, et grâce auxquels le régime de Kim Jong-il récupère une quantité de devises non négligeable. Dans un témoignage recueilli l'année dernière par le Parlement européen, Kim Tae-san, ancien diplomate en poste à l'ambassade nord-coréenne de Prague, a déclaré que 55% des salaires versés par les sociétés tchèques sont reversés à leur gouvernement par ces couturières, qui sont également obligées de payer de multiples contributions pour l'achat de films de propagande notamment. Toute déduction faite, elle ne toucherait qu'une trentaine d'euros par mois. Le système est connu depuis longtemps par les autorités tchèques. Dans la Tchécoslovaquie communiste, des milliers de Vietnamiens, mais aussi des Cubains et des Angolais notamment, étaient employés et contraints de reverser une partie de leur rémunération à leur mère patrie.
Le problème reste que personne n'a réussi à prouver quoi que ce soit. Michal Peiskal est directeur du bureau du travail de Nakhod.
Nous avons reçu l'ordre du ministère du Travail d'inspecter les conditions dans l'usine de textile Snieshka dès 2004, mais nous n'avons rien trouvé d'anormal.
Malgré cette absence de preuves, les autorités tchèques ont finalement décidé de se débarrasser lentement de cet épineux dossier. Tomáš Hajšman dirige le département des politiques d'asile et de migration au ministère de l'Intérieur.
Le problème des employés nord-coréennes en République tchèque est compliqué, mais finalement, en nous basant sur la résolution 1718 de l'ONU, nous avons décidé en juin dernier de ne plus accorder aucun nouveau visa de travail à des ressortissants nord-coréens et de ne pas prolonger les visas en cours.
Cela signifie qu'à la fin de l'année 2007, il n'y aura plus une seule Nord-Coréenne employée sur le sol tchèque. Mais des milliers de ces esclaves des temps modernes continueront vraisemblablement d'être exploités ailleurs, peut-être pour contribuer au financement du programme nucléaire de Pyongyang.
L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in